Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui parmi vous. Et comme vous l'avez vu, je travaille aussi à Saint-Louis, même si ce n'est pas l'université de Saint-Louis, c'est l'hôpital Saint-Louis. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons à ce que je viens de vous parler aujourd'hui de PrEP. Et ce qu'on m'a demandé, c'est de vous faire une petite revue sur la PrEP et puis sur l'essai ANRS hyper-gay que j'ai pu coordonner, mais comme je vous le dirai au cours de mon exposé, c'est évidemment une étude qui ne peut se mettre en place que grâce à la participation d'un grand, grand nombre de personnes. Donc peut-être pour commencer et essayer de mieux appréhender finalement les raisons pour lesquelles nous avons besoin de nouveaux outils de prévention, je vous présente là les dernières statistiques en France sur les diagnostics d'infection par le VIH. Je ne sais pas si vous voyez bien du fond de la salle. Donc, vous voyez sur le graphique, donc à votre gauche, c'est ça. À votre gauche, vous avez le nombre de diagnostics d'infection par le VIH en France au cours des 10 dernières années. Et vous voyez qu'entre 2003 et 2013, eh bien, ce nombre reste stable et qu'il n'y a pas de diminution de ce nombre. Et vous voyez sur le graphique à votre droite qu'au sein de ces personnes chez qui on diagnostique une infection par le VIH, eh bien, c'est en bleu clair, les personnes qui sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, eh bien, représentent une proportion croissante de ces personnes diagnostiquées avec le VIH et plus de 40%. Et les toutes dernières statistiques françaises sur l'année 2013 montrent qu'en 2013, il y a eu 6200 nouvelles découvertes d'infection par le VIH. Il faut toujours faire la différence entre les diagnostics et les nouveaux diagnostics, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des infections récentes, mais enfin, les nouvelles découvertes, 6200 chaque année en France, donc ça ne diminue pas, ça a plutôt tendance à un petit peu augmenter, donc il y a un vrai souci à ce niveau-là. On remarque que parmi ces nouvelles découvertes, plus de 40% sont observées chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et puis, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que 1% seulement de ces nouvelles découvertes concernent les toxicomanes par voie intraveineuse, qui montre que les programmes de prévention ciblés sur les toxicomanes en France avec l'échange de seringues, avec les programmes méthadone, fonctionnent très bien, ou en tout cas assez bien, et permettent de faire en sorte qu'en France, nous n'ayons pas de problème majeur avec l'infection par le VIH aujourd'hui chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. Alors si on s'intéresse maintenant à la prévention, puisque quand on voit ce grand nombre de contaminations en France, et c'est une situation que l'on voit également dans d'autres pays développés, on se dit, mais que peut-on faire en termes de prévention? Pourquoi a-t-on toujours autant de personnes qui se contaminent en France? Et ça reste évidemment un souci. Donc, je vous ai listé sur cette diapositive les différentes options en termes de prévention. Et j'insiste bien sûr en premier sur le préservatif. Et je crois qu'il faut, malgré effectivement tout ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui sur les préventions biomédicales, renforcer l'intérêt du préservatif. Pourquoi ? Parce que c'est grâce au préservatif en France, nous ne sommes pas dans un pays d'épidémie généralisée, comme ça peut être le cas dans certains pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, ou d'Asie. Et donc, il est important de renforcer, évidemment, l'usage du préservatif, car c'est quand même la protection, on va dire, la plus importante. La circoncision masculine a également été démontrée comme permettant de réduire, de façon partielle, le risque de transmission de la femme à l'homme. Et c'est pour cette raison que, dans un certain nombre de pays, également d'Afrique subsaharienne, on met en place aujourd'hui des programmes de circoncision masculine. Vous en avez parlé donc hier, je ne vais pas insister là-dessus, mais une des avancées scientifiques les plus importantes de l'année 2011 a été la mise en évidence de l'efficacité du traitement des personnes infectées au sein d'un couple pour prévenir le risque de transmission au partenaire séronégatif avec un niveau de réduction du risque de transmission très élevé. Vous voyez, on arrive à plus de 90%. Évidemment, lorsque la charge virale est contrôlée, lorsque la personne séropositive prend son traitement et que celui-ci est efficace. Des études du même ordre réalisées en Chine, où l'observance du traitement était moins bonne, l'efficacité du traitement était moins bonne, n'ont pas retrouvé évidemment ce même niveau de protection. Alors la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si en prévention, pour les personnes séronégatives, les antirétroviraux pourraient être utilisés. Et alors pour cela, évidemment, il faut rappeler que le grand succès qu'ont connu les antirétroviraux dans les années 94, à un moment où on s'interrogeait sur la réelle pertinence et l'efficacité de ces traitements, y compris pour les personnes séropositives, ça a été les résultats des essais de transmission, de la prévention de la transmission materno-fœtale du VIH. Et à l'époque, avec simplement l'AZT en monothérapie, on a pu réduire de façon importante, hein, près de 67% de réduction, le risque de transmission de la mère à l'enfant du VIH. Et ça a été, j'allais dire, une prise de conscience que, en prévention, les antirétroviraux avaient véritablement un impact important. Et aujourd'hui, vous savez qu'on utilise maintenant des trithérapies chez les femmes enceintes, et qu'avec ces trithérapies, il n'y a pratiquement plus de transmission du VIH en Europe, de la mère à l'enfant. Il n'y a pratiquement plus d'enfants qui naissent infectés d'une mère séropositive. Alors, un autre moyen également d'utiliser les antirétroviraux en prévention, c'est le traitement post-exposition. C'est un traitement qui, en France, est distribué gratuitement dans tous les services d'urgence. Les données sont là un petit peu plus fragiles, puisqu'elles se basent sur des études cas témoins, et notamment une étude qui a été publiée en 1997, qui a repris tous les cas d'infirmières en France et aux États-Unis qui avaient été exposées à du sang de personnes séropositives lorsqu'elles faisaient une prise de sang, elles étaient piquées ou avaient des projections de sang. Et on avait pu montrer que dans cette étude, la prise d'un traitement par l'AZT, là encore, c'était seulement une monothérapie dans les heures qui a suivi l'exposition et pendant une durée d'au moins 4 semaines, permettait de réduire de près de 80% le risque de transmission du VIH à ces infirmières. Donc voilà encore un autre élément qui montre que les antirétroviraux en prévention peuvent avoir une réelle efficacité pour limiter ce risque. Et aujourd'hui, évidemment, cette stratégie, elle est étendue à une trithérapie et qu'on propose pas seulement en cas ce qu'on appelle d'accident d'exposition au niveau hospitalier, mais également d'accident d'exposition sexuelle. Et en France, nous avons des recommandations pour cela, pour pouvoir donner à des personnes eh bien, ce traitement dans ces situations. Et donc on arrive, si je puis dire un peu naturellement maintenant, à savoir s'il y a un autre moyen d'utiliser ces antirétroviraux et si justement la PrEP, le fait de les utiliser avant même l'exposition, finalement au risque, ne peut pas permettre d'avoir également une réduction de ce risque de contamination par le VIH. Donc on vous a expliqué quelles étaient les différentes options en termes d'utilisation de ces antirétroviraux en prévention. Donc il y a bien sûr les comprimés. Il y a les gels, alors il y a les gels vaginaux pour la femme, il y a également des gels rectaux qui sont à l'étude chez la femme et chez l'homme, des films vaginaux, des anneaux. L'intérêt des anneaux vaginaux, c'est également de pouvoir combiner plusieurs molécules, éventuellement de les associer à des contraceptifs oraux, contraceptifs vaginaux, je veux dire. Et puis, sont à l'étude également des produits par voie injectable qui ont une longue durée d'action qui permettrait d'être injectés tous les mois, tous les deux mois, voire tous les trois mois. Alors je vais quand même centrer mon exposé sur la PrEP orale, parce que c'est avec la PrEP orale qu'on a le maximum de données aujourd'hui, et essentiellement avec le Truvada. Pourquoi le Truvada ? C'est tout simplement parce que c'est la combinaison de molécules qui a été la plus étudiée, et ceci n'est pas très surprenant, car le Truvada représente pour les personnes infectées par le VIH le traitement qui est recommandé par l'OMS et toutes les guidelines comme étant la combinaison à utiliser en première intention au sein des trithérapies, car c'est la combinaison qui est à la fois la plus puissante et la mieux tolérée. Alors si on s'intéresse, pour ce qui nous concerne, en France, en Belgique, dans les pays du Nord, à la prévention, c'est vrai que, compte tenu des données que je vous ai présentées, c'est évidemment chez les gays qu'on va avoir le désir de pouvoir améliorer la prévention, réduire le nombre de nouvelles contaminations. Et quand on parle d'essais de PrEP chez les gays, jusqu'à présent, un seul essai a été réalisé pour lequel nous avons des données. C'est l'essai IPREX, donc réalisé par des Américains, avec quelques participants américains, mais surtout des participants en Amérique du Sud, donc au Pérou, au Brésil, un petit peu également en Thaïlande et en Afrique du Sud. Donc c'est un essai qui était en double aveugle, randomisé, donc par tirage au sort, où des gays à haut risque recevaient, dans le cadre de l'étude, soit un comprimé par jour de Truvada, soit un comprimé par jour de placebo. La définition du haut risque dans cette étude était assez précise. C'était des rapports anneaux avec plusieurs partenaires, au moins quatre, le fait d'avoir développé une infection sexuellement transmissible, le fait de se prostituer, d'avoir des rapports sans préservatif. Et on avait d'ailleurs dans cette étude une prévalence de l'infection VIH à l'inclusion qui était assez élevée de 8%. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ont voulu participer, mais en faisant le test à l'entrée dans l'essai de PrEP, eh bien, la personne était déjà séropositive, et c'était le cas pour 8% des participants. Et on y reviendra d'ailleurs sur l'intérêt que peut avoir la PrEP de dépister des personnes à haut risque qui autrement ne se feraient pas dépister. Donc l'essai, comme tous les essais de PrEP, était basé sur un nombre d'événements, donc de contamination, et l'évaluation qui avait été faite était d'essayer de démontrer une efficacité d'au moins 60% de la PrEP, qui avait été considérée comme une efficacité pertinente pour en faire une mesure de santé publique, avec une efficacité qu'on voulait, quand on regarde l'intervalle de confiance autour du pourcentage de réduction, d'au moins 30%. Et ce 30%, c'est quelque chose qui est basé sur un certain nombre d'études en prévention qui montrent qu'en dessous de 30%, on a finalement une efficacité qui est probablement douteuse. Donc, qu'est-ce qui a été observé dans l'étude ? Eh bien, vous voyez en rouge l'incidence dans le bras placebo, en bleu l'incidence dans le bras Truvada. Vous voyez que les courbes se séparent, qu'il y a une différence, qu'au cours de l'étude, avec un suivi moyen de 14 mois, il y a eu une centaine de personnes qui ont été contaminées, 36 dans le bras Truvada, 64 dans le bras placebo, ce qui a entraîné une réduction de l'incidence de 44%. Donc on parle de réduction du risque de 44%. Et quand on suit un peu plus long terme les participants de l'étude, vous voyez d'ailleurs que les courbes ont tendance à se rejoindre un petit peu vers la fin, on arrive à 42% de protection à 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est de regarder également l'intervalle de confiance. Vous voyez que ça va de 15 à 63%. Donc l'intervalle de confiance, la borne inférieure, elle est plus basse que 30%. Donc ça veut dire qu'il y a une variabilité de cette mesure qui pose question, en tout cas, et qui a fait que d'autres études ont été réalisées. Alors, quand plus récemment, les investigateurs se sont intéressés à essayer de comprendre qui, dans les CIPREX, avait le plus bénéficié de cette stratégie de prévention, et quand on essaye de regarder un petit peu, en termes de coût-efficacité, comment les choses se sont passées, une des façons d'apprécier l'intérêt de la stratégie, c'est d'évaluer le nombre de personnes à traiter pendant un an pour éviter une contamination. Combien de personnes à haut risque faut-il traiter par la PrEP, par Truvada, pendant un an pour prévenir une infection? Eh bien, dans les CIPREX, c'était 62 personnes. Il fallait traiter 62 personnes pendant un an pour prévenir une contamination. Donc, évidemment, ça fait beaucoup. Et, bien entendu, ceci est lié directement au niveau de réduction. Alors, quand on s'intéresse, finalement, à certains groupes où on veut essayer de réduire ce nombre de personnes à traiter pour avoir une efficacité, on voit que on augmente en quelque sorte l'efficacité de cette stratégie en la ciblant sur des personnes qui avaient des rapports anaux non protégés, et donc notamment des rapports anaux réceptifs. Alors pourquoi il y a également eu beaucoup de discussions autour de la PrEP, c'est que vous avez sur cette diapositive résumé tous les essais de PrEP orale qui ont été réalisés. Donc je vous ai dit un seul, et vous le voyez au milieu avec le Truvada, donc chez les gays, c'est l'essai IPREX. Et vous avez sur cette diapositive une ligne pour le 0% et une ligne pour le 30%. Donc vous avez en bleu tous les essais qui ont donné des résultats positifs, c'est-à-dire qui ont réduit le risque de contamination par le VIH. Et vous voyez tout en haut, les meilleurs résultats ont été observés chez les couples sérodifférents avec le Truvada, donc dans l'essai Partners PrEP, et vous aviez 75% de réduction du risque. Vous voyez que là, l'intervalle de confiance, il était assez étroit. IPREX, vous l'avez au milieu. Et puis, vous voyez en rouge des essais où là, il y a eu malheureusement, avec pourtant la même stratégie, PrEP tous les jours, aucune efficacité. Donc, c'est le cas de l'essai FEMPREP, où vous voyez que vous avez 6% de réduction, donc trois fois rien. Et puis, alors, l'essai VOICE, qui n'a pas encore été publié. Pourtant, les études ont été présentées maintenant en 2013, février 2013, qui a montré que non seulement il n'y avait pas d'effet bénéfique, mais qu'il y avait même un effet entre guillemets délétère, puisqu'il y avait plus de contamination dans le bras qui recevait notamment le tenofovir. Alors, comment est-ce qu'on explique tout ça? Il y a plusieurs explications. L'explication la plus évidente, ce sont les différences d'observance du traitement, puisque toutes ces études reposent sur la prise continue de la trithérapie. Il y a peut-être également des différences en termes de pénétration du VIH dans l'organisme. Chez l'homme, chez la femme, c'est pas forcément exactement la même chose si on est hétérosexuel, homosexuel. Il y a eu également des interrogations sur la pharmacocinétique des antirétroviraux au niveau du tractus génital, dans la muqueuse rectale ou dans la muqueuse vaginale. Probablement également le rôle des IST, car on sait que les IST favorisent le risque de contamination par le VIH, et il n'y a probablement pas le même risque d'IST quand on est gay avec des partenaires multiples que quand on est dans un couple hétérosexuel stable depuis de nombreuses années. Et on a également probablement différents risques d'exposition à des personnes au stade de la primo-infection, qui sont, comme vous le savez, extrêmement contagieuses parce qu'elles ont des quantités de virus dans leur sécrétion génitale extrêmement élevées. Et on sait que ce risque-là, eh bien, il est beaucoup plus élevé quand on a des partenaires multiples et qu'on est gay à Paris que lorsqu'on est, dans un couple hétérosexuel stable où là, on a dépassé le stade de la primo-infection depuis bien longtemps. Alors, si on reprend les résultats de ces analyses en termes d'efficacité, et ça, vous l'avez sur la colonne donc, de droite, et en essayant de calculer l'observance des traitements, pas basée sur ce que les gens déclarent par les questionnaires, mais basée sur la détection des médicaments dans le sang. Car avec un traitement continu, eh bien, vous devez avoir 100% des personnes qui ont du médicament détectable dans le sang à chaque visite. Ce que l'on observe sur cette diapositive, c'est qu'avec l'essai Partners PrEP qui a donné les meilleurs résultats de réduction de l'incidence, donc 75%, vous voyez que vous aviez 81% des patients qui avaient du médicament détectable au moment des visites. Donc un fort taux d'observance, ce n'est pas 100% mais 80%. Si vous regardez ce qui se passe dans IPREX, où vous aviez 42% de réduction d'incidence, eh bien, la proportion des participants chez qui on détectait du médicament, alors ça n'a pas été fait chez tous les participants, mais en tout cas chez une grande partie d'entre eux, eh bien, il n'y en avait que 50% chez qui on détectait du médicament, ce qui veut dire que pour les autres, l'observance du traitement était aléatoire et que ça explique probablement en partie le niveau de protection qui était considéré comme suboptimal. Et puis vous voyez que dans les essais qui ont donné des résultats négatifs, donc FemPrep et Voice, le niveau d'observance était de moins de 30%, ce qui veut dire qu'avec cette stratégie de PrEP continue, si vous n'avez pas au moins 50% d'observance, vous pouvez vous attendre à ne pas avoir d'efficacité. Hein. Alors c'est ce qui a été également noté dans la phase d'ouvert de l'essai IPREX, c'est-à-dire qu'après l'essai IPREX, quelques mois plus tard, eh bien, tous les participants ont pu avoir accès à la PrEP orale en ouvert, c'est-à-dire en sachant qu'ils recevaient de la PrEP. Et ce qui a été observé dans cette étude, c'est que vous le voyez sur le graphe de droite, au cours du temps, la proportion de personnes qui avaient du médicament détectable, parmi ceux qui l'avaient au départ, eh bien, continue à décroître. Donc on a un véritable problème avec l'observance du traitement qui pourrait effectivement au cours du temps diminuer, même si ce n'est pas une diminution majeure, c'est quand même une diminution au cours du temps. Ce qui a été observé également par des extrapolations dans l'essai IPREX OLE, qui était donc Open Label Extension, c'était de se rendre compte que parmi les participants qui avaient des concentrations, et ça c'est sur le graphique de gauche, au-dessus d'un certain niveau dans le sang, ce niveau-là c'était 700 femtomoles, pas grosse importance, au-dessus de ce niveau-là, on ne constatait pas d'infection incidente. Et par analogie avec d'autres études, on a rapporté cette concentration à la prise par les participants d'au moins 4 comprimés par semaine. Alors évidemment, ce sont des analyses qu'on appelle post-hoc, donc a posteriori, dont on sait qu'elles sont quand même, sur le plan méthodologique, assez biaisées. Enfin, ça donne une idée du fait que, dans cette étude, si les participants semblaient prendre une quantité importante de comprimés, ils avaient un certain niveau de protection. Donc peut-être que cette étude laissait entendre qu'on n'avait pas besoin de prendre forcément un traitement tous les jours. Mais évidemment, quand on dit ça, on est quand même mal à l'aise, puisque le schéma qui est proposé, c'était bien un traitement continu. Ce qui avait été également noté, c'est les caractéristiques des participants qui arrivaient à prendre au moins cette posologie de traitement. Eh bien, c'était les participants les plus âgés, ceux qui avaient un niveau d'éducation les plus importants, ceux qui avaient un partenaire qui était déjà séropositif, qui avaient des rapports sans préservatif, ou de nombreux partenaires sexuels, également ceux qui avaient déjà présenté une IST. Alors, le dernier essai, le second essai, à vrai dire, réalisé chez les gays, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'essai réalisé au Royaume-Uni, l'essai PROUD, qui s'intéresse également à la PrEP continue par le Truvada, où les participants étaient tirés au sort entre un groupe qui recevait la PrEP immédiatement par Truvada et un groupe qui la recevait un an plus tard. Et l'objectif de l'étude était au départ d'étudier les comportements des participants dans les deux bras selon qu'ils recevaient la PrEP immédiatement ou un an après. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que dans l'étude, il y avait un certain nombre de contaminations qui survenaient. Et ils ont donc décidé de mettre en place un comité indépendant pour s'assurer qu'il était toujours éthique de continuer cette étude. Comme vous l'avez sûrement appris, à la fin du mois d'octobre, le comité indépendant de l'étude a considéré qu'il fallait arrêter le bras de PrEP différé car il y avait trop de contamination dans ce bras-là par rapport à l'autre. Et ils ont donc considéré qu'il n'était plus éthiquement acceptable de continuer l'étude. Et c'est ce qui nous a d'ailleurs amené dans l'essai hypergay, à regarder les données plutôt qu'on ne l'avait envisagé. Donc ces résultats devraient être présentés d'ailleurs à la CROI en détail au début de l'année prochaine. Alors au-delà des questions sur l'observance, il y a également d'autres problèmes qui sont soulevés par la PrEP évidemment les problèmes de sélection de résistance, les problèmes de tolérance pour des personnes qui sont en bonne santé, finalement, prendre un médicament, surtout si on doit le prendre tous les jours, le coût de ces stratégies et leur efficacité réelle, évidemment, sur le terrain, et puis l'impact éventuel que pourraient avoir ces stratégies sur les comportements, et puis je rajouterai, comme ça a été dit tout à l'heure, la façon de le mettre à disposition des personnes. Alors, en termes de risque de résistance, on va dire qu'on est à peu près rassuré par les résultats de toutes les études, et vous avez là les résultats de toutes les études publiées qui vous montrent le nombre de contaminations avec antirétroviraux ou placebo, et en fonction de ce nombre, les mutations de résistance ou le nombre de personnes qui avaient des infections avec des virus résistants dans le bras antirétroviraux et dans le bras placebo. Donc il y en a eu un peu plus dans le bras antirétroviraux, il y en a eu également quelques-unes dans le bras placebo. Ce qu'on peut dire, c'est que pratiquement toutes les contaminations qui se sont avérées être associées à des virus résistants dans les bras avec antirétroviraux l'ont été chez des personnes qui avaient démarré la PrEP alors qu'elles étaient déjà à la phase de primo-infection et que les tests qui avaient été utilisés pour le diagnostic de la PrEP avaient raté les primo-infections. La plupart de ces études ont été réalisées effectivement avec des TROD, et on sait que les TROD ne sont pas capables de détecter les personnes au stade de primo-infection. Donc ça, c'est une leçon à retenir. Il est évident que si une personne est aux phases de primo-infection et que vous lui donnez une bithérapie par le Truvada, forcément, vous allez sélectionner des résistances. Donc il est évidemment extrêmement important de s'assurer, avant de démarrer une PrEP, que la personne n'est pas au stade de primo-infection, en particulier si on s'adresse à des personnes à haut risque. Alors, en termes de tolérance, qu'en est-il ? Le Truvada, je vous l'ai dit, c'est un médicament qu'on connaît bien, puisqu'on l'utilise depuis près de 15 ans dans le traitement de l'infection par le VIH. C'est un médicament qui sera d'ailleurs génériqué d'ici 2 ans. Il y a 2 types d'effets indésirables, au niveau rénal et au niveau osseux. Si on regarde ce qui s'est passé dans l'étude, au niveau rénal, il y a eu une tendance vers un petit peu plus de participants qui ont eu une élévation de la créatinine avec le Truvada qu'avec le placebo. Et probablement d'ailleurs que dans les CIPREX, on a sous-estimé cette toxicité, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une moitié des personnes qui prenaient régulièrement le Truvada. Donc c'est un effet indésirable qu'il faut connaître, et c'est la raison pour laquelle ce type de stratégie de PrEP doit s'envisager dans le cadre d'une supervision médicale, car avant de démarrer le traitement, il faut s'assurer que la personne a une fonction rénale normale, il faut surveiller la fonction rénale régulièrement pendant la stratégie. Il y a également eu dans l'étude un peu plus de nausées au début du traitement avec le Truvada qu'avec le placebo, mais ça ne s'est observé que pendant les premières semaines, et par la suite, ces problèmes de nausées ont disparu. Donc une toxicité rénale qui est réelle, qui est quand même modérée, et qui, à mon avis, en étant monitorée sérieusement, ne devrait pas poser problème. Un autre effet qu'on connaît bien également chez les personnes séropositives, qui a été observé également chez les participants de ces essais de PrEP, c'est un impact du Truvada sur la densité minérale osseuse, où l'on a notamment, par rapport au placebo en rouge, vous voyez avec le Truvada en bleu, une diminution de la densité minérale osseuse, en particulier au niveau de la colonne vertébrale, un peu moins au niveau de la hanche. Donc c'est un résultat que l'on voit dès les premières semaines de traitement, qui semble se stabiliser après au cours du temps. Heureusement, les hommes sont quand même moins sujets que les femmes, pour les participants en tout cas de ces études, à l'ostéoporose. C'est vrai que c'est un problème qui se pose surtout après 60 ans, mais enfin malgré tout, même si la réduction de cette densité minérale osseuse est modérée, bon, c'est un élément à prendre en compte chez les gens qui auraient par ailleurs d'autres facteurs de risque de diminution de cette densité minérale osseuse. Qu'en est-il en termes de coût-efficacité ? Alors, il faut tout de suite dire que toutes les études de coût-efficacité qui ont été faites à partir des données de l'essai IPREX. Et qu'évidemment, ce qui est le plus important dans une analyse de coûts, c'est de prendre en compte l'efficacité de la stratégie. Les études qui ont été faites, et notamment celle qui a été présentée par les collègues de Californie, a été réalisée à partir des données d'IPREX, c'est-à-dire avec le niveau d'efficacité de 44%, en estimant que les participants allaient recevoir une PrEP pendant 20 ans. Donc, que se passerait-il si les gens recevaient 20 ans de PrEP et qu'on ciblait d'ailleurs, pour avoir l'impact le plus important, 20% des gays qui avaient le plus haut risque, donc qui avaient plus de 5 partenaires par an. Ils s'est rendu compte que c'était la stratégie la plus efficace de cibler les personnes à haut risque, que ça permettrait sur ces 20 ans de prévenir 40 000 cas d'infection et de réduire l'incidence du VIH de 13%. Alors, ça s'accompagnerait d'un gain de 352 000 cali, à un coût quand même relativement élevé, mais qui est considéré encore comme coût efficace dans les pays riches, de 40 000 dollars par cali. avec quand même une augmentation des dépenses de santé globale de 14 milliards de dollars sur 20 ans. Le problème, c'est que si ça s'accompagne d'une diminution d'utilisation du préservatif de plus de 20%, on peut avoir, malheureusement, de façon paradoxale, un risque d'augmentation des nouvelles infections. Donc on voit bien qu'il faut être prudent et tout ceci doit être surveillé attentivement. Vous voyez que ces données-là sont quand même très dépendantes des hypothèses sur l'efficacité de la PrEP. Qu'en est-il des changements de comportement ? Est-ce que ça peut, évidemment, annihiler l'effet de la PrEP ? Dans les essais qui ont été réalisés contre placebo, on ne l'a pas vu. Vous voyez que ce soit en termes d'utilisation du préservatif ou en termes de nombre de partenaires sexuels, au cours des essais de PrEP, essais qui ont été menés contre placebo, certes, on n'a pas vu de désinhibition des comportements sexuels, même si on a vu dans l'essai IPREX beaucoup de cas de syphilis. Il y a eu 500 cas de syphilis dans chaque bras, près de 40% d'incidence de la syphilis chez ces participants. Alors, on a été rassuré sur le plan des risques de désinhibition par la phase d'extension de l'essai IPREX, où ils ont regardé ce qui se passait pendant la phase d'ouvert de l'étude. Et finalement, ce qu'ils ont observé de façon rassurante, c'est qu'il y a eu plutôt une diminution du nombre de rapports anaux non protégés et que l'incidence de la syphilis n'avait pas augmenté de façon majeure pendant cette phase d'ouverte et qu'on a plutôt eu également une diminution du nombre de partenaires sexuels. Donc, il semble quand même que les participants, bien encadrés, parce que dans la phase ouverte également de l'essai IPREX, ont délivré la PrEP, mais ont continué de suivre les participants régulièrement avec du counseling, du dépistage des IST, etc. Donc on voit que, bien encadré, il semble que ce risque de désinhibition des comportements, on puisse peut-être le limiter. Alors, qu'en est-il de la PrEP intermittente ? Je vais terminer par là. Eh bien, pourquoi est-ce intéressant ? On espère qu'en ciblant la prise de PrEP au moment des situations les plus à risque, eh bien, on puisse avoir une meilleure observance, que ce soit plus simple pour les participants, et puis qu'on remette véritablement le choix d'utiliser ou pas la PrEP entre les mains des participants. Alors pourquoi est-ce qu'on espère une meilleure efficacité ? On l'a vu dans les essais avec le gel de Truvada. Dans l'essai Caprisa 004, les participantes devaient utiliser le gel juste avant et après les rapports sexuels, et ça a marché, avec une réduction qui était de l'ordre de 34%. Ce n'était pas majeur, mais c'était déjà pas si mal. En revanche, quand on a demandé aux participantes dans l'essai Voice, où il y avait à la fois du gel ou des comprimés, de l'utiliser tous les jours, il n'y a pas eu d'efficacité parce que les participantes, au bout d'un certain temps, ne l'utilisaient plus. On espère une meilleure tolérance. On espère aussi potentiellement moins de risques de résistance et puis peut-être une réduction des coûts. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les modèles animaux ? Là, vous avez des modèles animaux où on inocule le CHIV, qui est un virus recombinant entre le virus simien et le virus humain, par voie intrarectale aux singes. Et soit on leur donne aucun traitement, ça c'est en rouge, donc vous voyez qu'après quelques inoculations, tous les animaux sont contaminés, ou bien on leur donne du traitement. Et là, c'était du traitement continu, soit par voie orale, soit par voie sous-cutanée, avec le tenofovir, le FTC ou l'association des deux. Et vous voyez que ce qui est le plus efficace en haut, qui protège les animaux, c'est du Truvada en sous-cutané. Le Truvada par voie orale, c'est un petit peu moins bien, mais ça marche mieux en tout cas que le FTC seul ou le Truvada seul. Ça, c'est du continu. Dans d'autres études, ce qu'ils ont montré également, c'est qu'en donnant une double dose de ce Truvada, au moment de l'exposition, 2 heures avant et 24 heures après, on avait également une très bonne protection. Et c'est ce schéma qu'on a choisi d'utiliser dans l'essai Hyper-Gay, qui est donc un essai qui a été mené en France et au Canada pour évaluer cette PrEP à la demande chez des gays à haut risque. Et compte tenu des études précédentes, on avait vraiment ciblé les hauts risques comme étant les plus hauts risques de IPREX, c'est-à-dire ceux qui avaient des rapports anaux sans préservatif avec au moins deux partenaires différents. Et en plus de tout l'accompagnement de prévention qui associait la distribution de préservatifs, les conseils, le dépistage des IST, les vaccinations des hépatites, les traitements post-exposition, eh bien, on proposait le Truvada ou le placebo au moment des rapports sexuels. Et on avait donc estimé qu'avec une incidence de 3% par an dans cette population à haut risque, et en visant une efficacité d'au moins 50%, il nous fallait 2000 participants pour pouvoir conclure. La façon dont le traitement était proposé dans Hyper-Gay était la façon suivante. On donnait deux comprimés qui étaient à prendre 2 à 24 heures avant le premier rapport sexuel, un comprimé 24 heures plus tard et un dernier comprimé 48 heures après la première prise. Alors, on a d'abord regardé quelles étaient les données d'observance en mesurant la proportion de participants qui avaient du tenofovir détectable dans le sang, dans les deux bras, bras placebo, bras Truvada. Et ces données ont été présentées à la conférence de Melbourne un peu plus tôt cette année. Ce qu'on a vu, c'est que dans le bras placebo, une très petite proportion des participants avaient du ténophovir détectable, vous voyez, jusqu'à un an. Ces données ont été basées sur les premiers participants, les 113 premiers participants. Et une partie de ces participants qui avaient du ténophovir détectable dans le bras placebo étaient ceux qui avaient reçu un traitement post-exposition, puisque le traitement post-exposition était bien sûr autorisé et même favorisé dans l'essai Hyperguet. Et alors, on ne savait pas trop à quoi s'attendre dans le bras Truvada. À J0, eh bien, on avait également 2%, pas plus, des participants qui avaient du ténophovir détectable. Et puis, on a vu, à notre surprise et à notre satisfaction, que malgré une prise intermittente, eh bien, on avait plus de 80% des participants qui, au bout d'un mois, avaient du ténophovir détectable. Et donc ça, c'était évidemment très rassurant, parce que c'était finalement plus élevé que ce qu'on avait vu, ou au moins aussi élevé, dans les autres essais de PrEP. Et puis surtout, ce qui était rassurant, c'est de voir qu'au cours du temps, cette proportion n'avait pas l'air de baisser, et que, en tout cas sur ces premières analyses, on avait l'impression à la fois d'un haut niveau d'observance, et puis surtout d'une observance qui se maintenait dans le temps. Et donc, au total, plus de 86% des participants dans le bras Truvada, pourtant avec un schéma à la demande, avaient du ténophovir détectable. Évidemment, ça, c'est plus élevé que dans tous les autres essais de PrEP continue. Donc du coup, on arrive aux résultats préliminaires. Hein, maintenant, on a 417 personnes qui participent à cette étude dans 7 sites en France. Suite aux données de l'essai PROUD qui a recommandé l'arrêt du traitement pour une efficacité de la PrEP continue versus la PrEP différée dans l'essai anglais, eh bien, nous avons réuni également notre comité indépendant qui a échangé avec le comité indépendant de l'essai PROUD pour savoir sur quelles données ils basaient leurs recommandations et pour savoir si nous, dans l'essai Hyperguet, on pouvait continuer encore cet essai contre placebo, puisque ça a été toujours un point de discussion dans notre étude. Eh bien, notre comité indépendant s'est réuni le 24 octobre et nous a recommandé d'arrêter le bras placebo. Et aussi, ce qui est important, c'est de recommander à tous les participants de recevoir non pas de la PrEP en continu, mais de la PrEP à la demande. Et ceci pour deux raisons. D'abord parce qu'il y avait une incidence de l'infection VIH plus élevée qu'attendue dans le bras placebo, et parce qu'il y avait une forte réduction du risque d'infection VIH dans le bras Truvada à la demande. Et j'ai dit que c'était de l'ordre de 80%, cette réduction du risque, donc, qui semble bien plus élevée que dans la plupart des autres essais, en tout cas menés chez les gays avec l'essai IPREX. Alors, on n'est pour l'instant pas précis sur ce chiffre de 80%, parce que ça va dépendre des derniers résultats, car aujourd'hui, on est en train de rappeler tous les participants qui étaient dans cette phase de double aveugle pour qu'ils viennent rechercher le traitement en ouvert. Et il est possible que des participants, en venant chercher leur traitement, se rendent compte qu'ils étaient contaminés dans l'intervalle. Et ceci peut changer un petit peu les chiffres. Ça ne peut pas changer le résultat, mais ça peut changer un petit peu le niveau d'efficacité. Donc, on le saura, le niveau final, dans quelques semaines. Il y a eu également une très bonne tolérance du traitement, puisqu'il n'y a qu'un seul participant qui a dû arrêter le traitement pour un problème d'interaction médicamenteuse, qui est d'ailleurs douteux. Et donc aujourd'hui, l'essai se poursuit pendant encore un an au moins pour qu'on vérifie qu'avec le temps, eh bien, ce traitement par Truvada à la demande va rester bien toléré et va s'accompagner d'une incidence très faible de l'infection VIH. Donc en conclusion, je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est en tout cas les données de l'essai Hyperguet, c'est que la PrEP à la demande réduit de façon importante le risque d'infection par le VIH dans cette population à risque de l'étude, dans le cadre d'un encadrement quand même très attentif des participants. On a prévu d'étendre l'étude en France et en Europe dans les prochains mois. On n'a pas encore décidé ça de façon définitive. Ça dépend des financeurs de l'étude. Ce qui est important également à rappeler, c'est que la PrEP permet d'identifier et de traiter rapidement les personnes infectées. Et ça, c'est très important. Dans l'étude, on l'a bien vu. Les personnes qui ont été contaminées ont été immédiatement mises au traitement et elles l'ont accepté sans aucun problème. Et on a pu également détecter avec la PrEP des personnes qui ne se seraient pas fait dépister autrement et on les a attirées avec cet nouvel outil pour venir se faire prendre en charge et se faire dépister. La PrEP clairement doit s'intégrer dans un programme global de prévention, ça je crois que c'est également important à souligner. Et si les participants sont restés dans l'étude depuis 2 ans et demi dans l'essai Hyperguet, c'est aussi parce qu'elles étaient satisfaites de l'accompagnement qu'on leur a proposé dans cette étude, du dépistage SIST, du counseling qui était proposé dans le cadre de l'étude. Et je crois que c'est vraiment la combinaison de ces nouveaux outils de prévention qui doit nous aider à contrôler cette épidémie, la PrEP bien entendu, mais aussi le dépistage, le traitement précoce des personnes infectées. sans oublier bien entendu le renforcement des autres mesures de prévention, et c'est bien entendu combiner tout cela qui devrait véritablement pouvoir faire la différence. Et donc pour terminer, je voudrais remercier tous les participants de l'étude, évidemment, les accompagnateurs qui ont joué un rôle très important, qui sont ces personnes qui ont fait le lien entre les participants et les équipes qui les ont prises en charge tout au long de l'étude, les équipes des sites de l'ESSE, de l'ANRS, le conseil scientifique, le comité indépendant, le comité associatif, qui a joué un rôle également très important, puisque nous avons regroupé dans un comité toutes les associations qui ont voulu être partie prenante, en tout cas dans l'étude, en donnant un avis critique mais constructif sur le déroulement de l'ESSE. Et puis vous avez les financeurs, bien sûr l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, le réseau des essais cliniques canadiens, le SIDAction, la fondation Gates et les laboratoires Gilead qui ont fourni quand même le placebo et le médicament. Voilà, j'étais un peu long, je m'excuse, mais j'ai essayé de vous dresser le panorama à peu près complet de l'étude aujourd'hui. Merci pour votre attention.